une très bonne question pour vous. Est-ce que Dieu châtie ceux qui font du mal à son peuple? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et instructive, la réponse de Dieu, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on termine l'étude du livre de Jérémie aujourd'hui. Je crois que vous serez d'accord avec moi du fait qu'on en a beaucoup appris dans ce livre, concernant notre propre vie. Et on a vu l'amour et la justice de Dieu, de ce Dieu parfait et merveilleux. Voici donc les dernières questions qu'on va poser à ce beau livre de la Bible. Est-ce qu'il y a des pays qui peuvent résister à Dieu? Est-ce que Dieu a abandonné Israël, son peuple? Est-ce que Dieu châtie ceux qui font du mal à son peuple? Est-ce que Dieu avertit avant de châtier un pays? Qu'en est-il de Babylone aujourd'hui? Qu'en est-il de Jérusalem et de Juda? Qui est-ce qui détermine qui sera un chef d'État dans un pays? Qu'est-ce qu'un croyant doit faire quand il a de la difficulté à obéir à Dieu dans un domaine de sa vie? Et si on n'est pas encore un croyant, qu'est-ce qu'on doit faire? Restez là, le pasteur Jean Joly est sur le point de nous enseigner plein de choses pour notre bien en répondant à chacune de nos questions selon la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Quelle joie, Seigneur, d'entrer dans ta présence et de savoir que c'est toi qui vas nous enseigner par la bouche de ton serviteur, par tes saintes écritures, par ton esprit, par la puissance de ton esprit. Touche nos cœurs aujourd'hui et transforme-nous à ton image. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Lors de la dernière émission, nous avons vu que Baruch, qui servait Dieu fidèlement, se posait des questions au sujet de son avenir. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu lui a dit qu'il aurait la vie sauve, mais qu'il ne devait pas attendre de grandes choses pour lui. Le peuple allait en captivité, il ne pouvait donc pas s'attendre à des richesses ou une situation enviable. Nous avons parlé de l'erreur monumentale des survivants de Juda. Ils ont préféré s'appuyer sur l'Égypte plutôt que de croire Dieu qui avait promis de toucher le cœur de Nebuchadnezzar s'il choisissait de demeurer en Juda. L'appui de l'Égypte serait plus que décevant parce que l'Égypte aussi était une nation destinée à la captivité. Cependant, Dieu a dit à son peuple que sa colère ne durerait pas toujours, mais qu'il châtierait les nations où Juda a été conduit en captivité et qu'il rassemblerait de nouveau son peuple. Jérémie a aussi prophétisé sur les nations avoisinantes de Juda, dont le pays des Philistins, Moab et Ammon. En faisant cela, Jérémie disait à son peuple qu'il était inutile de chercher du secours auprès d'un autre pays. Nous avons terminé par une réflexion sur la colère de Dieu. Nous avons expliqué qu'elle était une expression de l'amour de Dieu. Par ses jugements, Dieu restreint le péché dans le monde, il appelle aussi les pécheurs à la repentance et il discipline ceux qui lui appartiennent pour leur bien. Au jugement dernier, la colère de Dieu envers les pécheurs sera inflexible. Étant juste et saint, il ne peut pas tolérer le péché et il ne permettra pas que des pécheurs entrent au ciel pour faire souffrir les siens. Aujourd'hui, nous complétons l'étude du livre de Jérémie. Nous reprenons verset 7 du chapitre 49. Nous débutons par la prophétie contre Édom. Elle est plus longue que les autres, probablement parce que les Édomites sont des cousins d'Israël. Ésaü et Jacob étaient deux frères. Les Édomites sont des descendants d'Ésaü et les Israélites les descendants de Jacob. Au cours des années, ces deux nations se sont souvent fait la guerre. Édom est devenue une grande nation selon la promesse de Dieu. Chers amis, lisons Jérémie chapitre 49, les versets 7 et 8. « Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dedan, car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Le territoire d'Édom se trouvait au sud de la région à l'est de la mer Morte et du golfe d'Aqaba. La nation était due pour un jugement de Dieu. Édom était devenue une nation puissante et elle fournissait des conseillers aux autres nations. La capitale d'Édom était Petra, une ville taillée dans la pierre. Elle était si sécuritaire qu'elle servait d'entrepôt aux autres nations. Babylone et l'Égypte y avaient déposé des richesses. C'était l'endroit où entreposer un trésor sans avoir à s'en inquiéter. Seule une petite entrée permettait d'entrer dans cette ville taillée dans le roc. Cependant, cela n'a pas empêché Dieu de réduire la grandeur de cette ville à rien. Sa grandeur dépendait beaucoup des nations avoisinantes qui considéraient Petra comme étant un endroit sûr. Jérémie 49, verset 13. « Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel. Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Bosra est une ville avoisinante de Petra. La ville de Petra est entièrement déserte aujourd'hui. » Verset 16. « Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. » Aucun pays ne peut résister à Dieu. Édom a été jugé pour son grand péché, l'orgueil. Les résidents de Petra habitaient un endroit bien protégé. Pour se rendre à l'entrée de la ville, il fallait prendre un passage étroit d'un kilomètre et demi environ. C'était une crevasse dans la vallée de Wadi Musa. La nation existait depuis 1000 ans, et ensuite les Arabes, Nabatéens, l'ont conquise. Les Grecs ont essayé de prendre la ville à 2 reprises, mais ils ont échoué. L'homme moderne n'a pu s'y rendre avant l'invention de l'avion. La ville a subi l'influence des Babyloniens, des Égyptiens, des Grecs et des Romains. Nous remarquons des traces de l'architecture de ces civilisations dans la ville. Dieu a jugé Édom et il a permis que la ville tombe. Dieu dit ceci au sujet d'Édom, mais la prophétie d'Ézéchiel est encore plus complète. Revenons à Jérémie, chapitre 49, versets 17 et 18. « Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorre et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité. Il ne sera le séjour d'aucun homme. » Cette prophétie s'est accomplie fidèlement. La ville existe toujours. Elle ne peut pas être détruite parce qu'elle a été taillée dans le roc. Dieu a dit qu'elle ne serait plus habitée, et c'est le cas. Il arrive que quelqu'un s'y arrête pour la nuit, mais la personne poursuit sa route le lendemain. Cette prophétie est intéressante lorsque nous la comparons à celle contre Tyr. Dieu a dit que Tyr serait complètement détruite et qu'il n'en resterait rien. Cependant, la ville serait de nouveau habitée. Tyr est une ville habitée aujourd'hui. Par contre, Petra n'a jamais été détruite, mais plus personne ne l'habite. Verset 20. C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. La ville est dans un état de désolation et la nation d'Édom n'existe plus. Versets 23 et 24. Sur Damas, Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante. Elle se tourne pour fuir et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Certains affirment que Damas est la ville qui est habitée depuis fort longtemps. Plusieurs villes contestent cette assertion, se disant être la ville habitée le plus longtemps. Quoi qu'il en soit, Damas est habité depuis très longtemps. Cette prophétie annonce la destruction de Damas. La ville a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Damas n'est pas exactement à l'endroit du temps de Jérémie. Cependant, la ville est la capitale de la Syrie et elle porte toujours le nom de Damas. Le chapitre contient aussi des prophéties contre deux villes prospères, soit Kedar et Hatsor. Nous en savons très peu sur ces villes, mais nous apprenons que Nebuchadnezzar les prendra. De plus, Jérémie prophétise contre Élam. Verset 35. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. La ville sera détruite, mais elle sera rétablie dans la suite des temps. Le reste de Juda ne peut pas fuir le châtiment divin. Toutes ces nations subiront le même sort qu'Israël, le reste de Juda, le petit noyau de survivants, n'a aucun endroit où trouver refuge. Personne ne peut les aider. Il a regardé dans toutes les directions sauf vers le ciel, le seul endroit d'où pouvait venir le secours. Cependant, le reste n'a pas voulu faire confiance à Dieu. Il lui avait dit quoi faire, mais le reste n'a pas voulu croire Dieu. Le reste a décidé de se rendre en Égypte, et c'est là qu'il a fait face à son ultime destruction. Maintenant, nous passons à une prophétie contre Babylone, la puissance mondiale de son époque. Cela n'empêchera pas la destruction éventuelle de la nation. Elle sera jugée condamnée comme de nombreuses nations. Lisons Jérémie chapitre 50, versets 1 et 2. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations. Publiez-le. Élevez une bannière. Publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, belle et confondue, Merodac est brisée. Ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Lorsque cette prophétie a été proclamée, il semblait qu'Israël était sur le point de disparaître entièrement. Ce serait Babylone qui demeurait une puissance mondiale. Cependant, Dieu affirme que Babylone sera détruite. Verset 4. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Israël survivra en tant que peuple et nation. Cette prophétie a une portée jusque dans les derniers jours, alors qu'Israël reviendra à Dieu. Babylone goûtera au jugement de Dieu et elle sera conquise par l'empire des Mèdes et des Perses. Verset 9. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Dieu est souverain sur Babylone et sur les nations. Gobrias, le général de l'armée des Mèdes, a utilisé une ruse pour prendre la ville en une nuit. Lisons Jérémie 50, verset 13. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Cette prophétie s'est accomplie. Et tous les touristes qui visitent l'endroit peuvent le confirmer. Versets 17 et 18. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. La destruction de Babylone a été soudaine et une surprise complète. Le roi de Babylone célébrait la nuit de la chute de la ville. Verset 24. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone. À l'improviste, tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. Vous trouverez des détails dans le chapitre 5 du livre du prophète Daniel. Revenons à Jérémie chapitre 50, verset 26. « Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes, et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. » Aujourd'hui encore, Babylone n'est qu'un amas de ruines. La ville a été complètement détruite. Verset 28. Écoutez les cris des fuyards de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple. La destruction de la ville sera annoncée dans Sion. Verset 38 à 40. La sécheresse contre ses eaux, qu'elle tarisse, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. C'est pourquoi les animaux du désert s'établiront avec les chacals, et les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Comme Sodome et Gomorre et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera le séjour d'aucun homme. La destruction de Babylone est comparée à la destruction de Sodome et Gomorre. Verset 42. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme. Contre toi, fille de Babylone! C'est ce qui s'est produit lorsque Gobrias, le général Mède, a pénétré dans la ville. Dieu a prévu d'avance les détails de la chute de Babylone. Le chapitre 51 contient la suite de la prophétie contre Babylone. Lisons les versets 6 à 8. « Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Babylone a été détruite soudainement selon la prophétie. » Versets 25 et 26. « Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras jamais une ruine, dit l'Éternel. » L'endroit est désolé aujourd'hui. Versets 36 et 37. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repaire de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. » Les Mèdes ont détourné le fleuve Euphrate qui traversait la ville, ce qui a donné deux entrées pour l'armée des Mèdes et des Perses. Les soldats ont emprunté le lit de la rivière pour entrer dans la ville. Les soldats sont arrivés soudainement dans les rues de la ville, qui a été prise par surprise. Ce chapitre résume la chute de Jérusalem et la captivité de Juda, dont nous avons déjà étudié les détails. Jérémie résume, en fait historique, les événements qu'il avait annoncés prophétiquement au cours des années. Il raconte de nouveau la capture de Sédécias, ainsi que l'exécution de ses fils et des chefs de Juda en sa présence. Jérémie nous apprend aussi ce qui est advenu de Josaphat après qu'il a été amené à Babylone. Lisons Jérémie 52, versets 31 à 34. La 37e année de la captivité de Josaphat, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Josaphat, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Josaphat mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvu constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Josaphat est mort à Babylone. Jérémie avait prophétisé qu'aucun de ses descendants ne siégerait sur le trône de David. C'est avec lui que se termine la lignée de David qui passait par Salomon. Le fils de David, qui siégera sur le trône pour l'éternité, est un descendant de Nathan, un autre fils de David. Marie est une descendante de Nathan, et c'est par elle que le Seigneur Jésus peut réclamer le trône de David. C'est pour cette raison que le livre de Jérémie se termine avec ces détails importants au sujet de la descendance de David. Dans le livre du prophète Daniel, nous lisons « C'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Daniel chapitre 2, verset 21. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Proverbe 21, verset 1. Ces deux versets nous confirment que c'est Dieu qui est souverain sur toutes les nations. C'est lui qui décide qui devient un chef d'État. Dans le livre que nous venons de terminer, nous avons vu Dieu en action. Il a révélé à Jérémie tous ses plans concernant Juda et les nations qui l'environnaient. Babylone était un instrument de Dieu pour châtier son peuple. Il a châtié son peuple avec mesure. Il a conservé un reste dans le pays et il a permis qu'il puisse revenir de la captivité. Il a rétabli son peuple dans son pays. Par contre, Dieu restreint aussi le mal dans le monde en châtiant le péché des non-croyants. Babylone a agi d'après ses motifs égoïstes et la nation a été complètement détruite. Cette destruction était une condamnation. Babylone ne s'est jamais relevée après sa défaite aux mains des Mèdes et des Perses. Dieu ne prend jamais plaisir à châtier qui que ce soit. C'est toujours la mesure du dernier recours. Il a toujours averti Israël et les nations avoisinantes par la bouche des prophètes avant de châtier le peuple rebelle et idolâtre. Par exemple, Ninive a été épargnée d'une destruction immédiate après s'être repentie en entendant la prédication de Jonas. Mes amis, êtes-vous un chrétien qui éprouve de la difficulté à servir et à obéir à Dieu? Dites-le lui dans la prière. Reconnaissez-le avec humilité et demandez à Dieu d'incliner votre cœur à suivre ses voies. Le roi Salomon a parlé en ce sens lors de la dédicace du temple. Mais qu'il, en parlant de Dieu, incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Deux Rois, chapitre 8, verset 58. Le roi David aussi demandait à Dieu d'incliner son cœur. « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Le psaume 119, verset 36. Par contre, si vous n'êtes pas un croyant, Dieu vous invite à la repentance. Par exemple, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, suite à la recommandation d'une personne en captivité d'Israël, est allé en Israël pour rencontrer le prophète Élisée. Il a été guéri et il a cru en Dieu. Celui-ci a accueilli le chef de l'armée d'un pays idolâtre qui s'attaquait à son peuple. Dieu a aussi pardonné à Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens. Jésus-Christ a dit qu'il était venu pour ceux qui se reconnaissaient pécheurs. Il accueillait les pécheurs exclus de la bonne société de son époque. Mes amis, Dieu ne demande qu'à vous pardonner et à vous accueillir dans son royaume et dans sa famille. Vous n'avez qu'à reconnaître que vous êtes pécheur et à recevoir son Fils comme sauveur personnel. Écoutez ce texte, qui est le cœur même de l'Évangile, les pensées mêmes de Dieu à votre égard. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Citation de l'Évangile selon Jean chapitre 3, verset 16. Dieu est amour et il veut vous sauver. Prochaine émission. Un prochain livre. Lamentation de Jérémie, chapitre 1, les versets 1 à 12.
Merci, Régent. Mes amis, je crois que ce que je retiens le plus du livre du prophète Jérémie, c'est que Dieu est parfait en amour et en justice. C'est aussi qu'il est souverain. Il règne sur toutes choses. Il a le contrôle absolu sur nos vies et même sur les plus grands dirigeants des peuples depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Et je suis vraiment heureuse d'être son enfant. d'être sous sa protection divine, à l'abri, à l'ombre de ses ailes. Comme c'est extraordinaire d'avoir la certitude que Dieu est mon Père, mon Sauveur, mon Seigneur, mon ami, mon protecteur. Comme c'est réconfortant, dans les jours où on vit sur cette terre, d'avoir un appui sûr, le rocher des âges, le Seigneur Jésus, le seul qui soit venu sur cette terre sans jamais pécher et qui est mort sur la croix pour mes péchés. Dans le 5e chapitre de la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au verset 21, on dit ceci de Jésus. « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Pensez-y, mes amis. Jésus n'a jamais commis de péché et il est devenu péché, l'objet de la colère de Dieu pour nous et à cause de nous, pour qu'on puisse à notre tour devenir justice de Dieu. Nous qui étions des injustes, nous qui étions indignes d'entrer dans la présence de Dieu, on est devenus des justes, mais uniquement parce qu'on a placé notre confiance en Jésus seul pour le pardon de nos péchés. Quel sujet de reconnaissance! Mes amis, Jésus a reçu la condamnation qu'on méritait tous pour nos péchés. Il l'a reçue volontairement, par amour pour nous. Alors toi, mon ami, est-ce que tu sais que Jésus a reçu ta condamnation sur lui quand il est mort sur la croix? As-tu reconnu que Jésus était le seul moyen pour toi d'être sauvé du châtiment éternel, de recevoir le don gratuit de la vie éternelle? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Elle dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Si ça en restait là, ce serait une bien mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle est écrite dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 24, et au chapitre 6, verset 23, dans lesquels il est dit qu'on est gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, et que même si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, lui, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, mon ami, veux-tu recevoir le don gratuit de la vie éternelle? Eh bien, reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse. Demande à Dieu de te pardonner tes péchés et repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Tu peux même lui dire que tu sais que tu ne mérites pas ce cadeau, mais que tu reconnais qu'il l'a payé en entier, en souffrant et en mourant sur la croix. Alors, mon ami, je t'en supplie, aujourd'hui, pendant que tu en as encore l'opportunité, je t'invite à venir à Jésus. Viens à lui, maintenant.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous. Il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, bien c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Je dois connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.